Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Et oui, puisque comme vous le savez, les électeurs turcs sont appelés ce dimanche à voter pour renouveler ou non leur confiance au président Erdogan, qu'il soit réélu dès ce week-end ou contraint par l'opposition à un second tour, ce qui pourrait arriver. Plus rien ne semble pouvoir remettre en cause la mainmise du dirigeant turc arrivé au pouvoir en 2002 sur une plateforme modérée, je vous le rappelle, et pro-occidentale, alors que maintenant il incarne plutôt l'islamisme. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Edem Eldem. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université d'Istanbul. Vous êtes le nouveau titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France. Vous avez notamment publié « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident » chez Fayard. Et nous sommes en partenariat avec l'OPS. C'est la raison pour laquelle vous êtes là, Céline Lussatou. Je vous salue. Vous êtes allé voir ces Turcs qui sont, d'après vous, extrêmement clivés entre pro et anti Erdogan, à la différence d'autres clivages qui vous paraissent moins pertinents, comme par exemple les Kurdes, comme par exemple les laïcs. Bref, il y a vraiment selon vous un clivage. Peut-on considérer, comme certains hebdomadaires l'ont fait, je pense au Point par exemple, qu'aujourd'hui Erdogan est un dictateur ?
Écoutez, je pense que les élections de dimanche vont en partie répondre à cette question. Jusqu'à présent, les élections en Turquie ont toujours été, période, et je ne suis pas historienne, mais
l'historien est à côté.
Voilà, sous la surveillance d'eux. Je pense que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les élections ont toujours été quelque chose de fondamental pour les Turcs. Le taux de participation est très 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 élevé et la dictature n'était pas
nom. Si c'est un dictateur, c'est un dictateur élu.
Donc alors est-ce qu'on peut être un dictateur élu? Et
c'est une grande question.
La question sur laquelle souvent en fait il y a une confrontation, en tout cas quand on parle avec les Turcs à Istanbul, qui ont été même un peu choqués par le fait qu'en France,
est-ce qu'ils ont été choqués? Vous dites oui. Pourquoi l'ont-ils été quand ils ont vu qu'en France, mais c'est le cas aussi dans d'autres pays, en Allemagne par exemple, on avait dépeint Erdogan en dictateur?
Parce qu'ils n'ont pas le sentiment. C'est là que tout se pose. C'est que, en fait, vous avez deux réponses à cette question en fonction des Turcs auxquels vous vous adressez. C'est là que vous voyez cette séparation entre deux Turquies qui est en train de se faire. Il y a les Turcs qui vont défendre Recep Tayyip Erdogan et qui vont être extrêmement choqués par le fait qu'on puisse l'appeler dictateur. Et de l'autre côté, vous allez rencontrer des gens qui vont remercier en fait les Français, les Allemands, etc. De leur point de vue, mettre ce mot sur leur président.
Parce que dictateur ou pas, ça, vous allez nous éclairer à ce sujet d'Edem Eldem. En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis 2016, autrement dit depuis le putsch, il y a eu 150 000 fonctionnaires qui ont été radiés, ce qui est quand même une situation incroyable et très triste dans un pays qui est en proie également à une importante crise économique. 50 000 personnes mises sous les verrous, donc des arrestations politiques. Donc si c'est un démocrate, c'est un démocrate dur, peut-on dire?
Ah oui, absolument. C'est-à-dire que, de façon, entre le démocrate et le dictateur, vous avez toute un éventail de situations. Et bon, je ne le qualifierais pas de dictateur encore, mais c'est vrai qu'il y a une tendance vers l'autoritarisme. Ce qui est ironique, c'est que ceux qui le traitent de dictateur, souvent, revendiquent un héritage kémaliste qui lui-même repose sur une dictature des années 20-30. Et c'est un des problèmes de la Turquie, encore une fois, un problème de cléomanie et de cléopathie.
D'obsession pour l'histoire.
Fou d'histoire et malade d'histoire. Ce sont deux choses qui se chevauchent. Le fait que la Turquie n'a jamais réglé ses comptes d'histoire, n'a jamais été amenée, comme l'Europe l'a été après 45, à évaluer de manière assez objective ses crimes passés, ses excès passés, etc. Donc le kémalisme aujourd'hui, c'est une sorte de confirmation que le culte de la personnalité est quelque chose de légitime. Alors si le culte de Mustafa Kemal d'Atatürk est légitime, pourquoi pas celui d'Erdogan? d'Erdogan. Du moins, c'est ce que les partisans d'Erdogan voient bien. Et c'est ça le problème fondamental de la politique turque, le fait que l'autoritarisme, il est très présent, non seulement dans la politique, mais aussi dans la structure des partis politiques. Les partis politiques sont menés à coup de trique par les leaders des partis politiques. Donc ce sont des partis politiques qui, eux-mêmes, ne sont pas vraiment démocratiques. Donc comment attendre une action démocratique de partis qui, eux-mêmes, ne le sont pas vraiment? Donc il y a plein de choses qui doivent être remises en question, et ça n'arrive jamais. La Turquie est passée maître dans l'art de balayer sous le tapis, en quelque sorte, d'ignorer des problèmes fondamentaux qui devraient être... Parce que, encore une fois, si vous arrivez à réduire le problème d'Erdogan à un épiphénomène de quelque chose de beaucoup plus important et de plus continu, dans ce cas-là, vous allez traiter la question de fond, qui est celle de la culture politique en Turquie.
Mais alors, justement, si on reste dans cette culture politique, parce que Céline Lussato, il y a donc effectivement des élections. Alors, est-ce que l'on peut élire un dictateur? Je crois que c'est un sujet qu'on pourrait poser en histoire au bac, et il y aurait des développements extrêmement intéressants à cet égard. En revanche, ces 50 000 personnes qui ont été mises sous les verrous, qui sont accusées donc de gulenisme, car Gulen est cet opposant en exil aux États-Unis qui aurait fomenté un coup d'État, est-ce qu'ils ont participer à un coup d'État indépendamment donc de leur condamnation? Est-ce qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières? Comment la qualifier?
Je pense qu'il y a une chasse aux sorcières, effectivement, qui ne touche pas d'ailleurs que les personnes accusées d'être gulenistes. Sachant, il faut le préciser, que les accusations de gulenisme touchent des gens qui n'avaient par exemple qu'une application sur leur téléphone équivalent de WhatsApp ou Messenger.
Ah oui, donc ce sont
le fameux Baylock que certains utilisaient, et les accusations pour certains ne portent que là-dessus. Dans leur téléphone, il y a cette application, et donc ils ont été mis sous les verrous. Les gulenistes ou supposés, personnes de l'opposition. N'oublions pas que le leader du HDP, Demirtas, fait campagne pour la présidentielle depuis sa cellule. Il n'est pas accusé d'être guléniste, mais il est accusé d'être complice du terrorisme. Aujourd'hui, voilà,
La situation des journalistes en Turquie, peut-être un mot là-dessus?
La situation des journalistes, bon, beaucoup ont été libérés, mais la plupart restent sous le coup de condamnations, de procès en appel.
En tout cas, ils ont compris qu'ils ne devaient pas faire leur métier.
Ils ne peuvent plus faire leur métier. Il n'y a plus de liberté d'expression en Turquie.
Les universitaires, c'est exactement la même chose. Edem Elden, j'ai dit qu'il y avait 150 000 fonctionnaires qui avaient été mis à la porte de l'administration. Parmi eux, 5 000 universitaires.
Oui, mais alors pas pour ce qu'ils avaient écrit, mais encore une fois pour des appartenances ou non. Parce que l'avantage des universitaires, c'est que contrairement à la presse, ils ne sont pas lus. Donc quand on n'est pas lu, on n'est pas vraiment inquiété. Je rigole, mais c'est vrai aussi. Hein. Je veux dire, moi-même, j'écris sur des sujets qui sont parfois un peu tabous. Je n'ai pas été inquiété tout simplement parce que je ne suis pas lu. Donc
quels sont les sujets tabous?
Je sais pas, moi, ce n'est plus vraiment un tabou, mais le génocide des Arméniens, par exemple, c'est un tabou populaire, même si, juridiquement parlant, il n'y a plus d'interdiction sur...
Alors justement, parlons du génocide arménien, parce que là aussi, la politique d'Erdogan s'est durcie, et lorsqu'il a été question, parce que il en a été question que la Turquie entre dans l'Europe, certains s'en souviennent peut-être, même si aujourd'hui, ça paraît extrêmement... éloigné, on évoquait la nécessaire reconnaissance du génocide arménien. Il y avait même des signes que les Turcs étaient prêts à assouplir leur position à ce sujet. Pouvez-vous nous expliquer, Demendem, pourquoi nier l'évidence? Pourquoi nier le génocide arménien, à la fois sur le plan logique, sur le plan moral aussi évidemment, mais sur le plan logique, sur le plan historique? On comprend mal pourquoi les Turcs, et en l'occurrence le pouvoir turc, s'arc-boutent contre une évidence.
Ça n'est pas si compliqué que ça. Je ne connais pas beaucoup de nations qui, de leur propre gré, se mettent à revisiter et à critiquer leur passé. Je veux dire, ne serait-ce que pour la collaboration en France, il a fallu quelques années pour que ça devienne un discours officiel.
Bon, mais on l'a fait.
Oui, mais avec un certain... Et dans le cas du génocide des Arméniens, vous parlez d'un siècle. Et un siècle sous une idéologie et une manipulation de l'histoire qui est quand même très forte, les gens finissent par croire à leur cause et à être persuadés que c'est un complot ourdi contre la nation turque, etc. Par les...
Donc, mais alors justement, quelle est la thèse officielle? Parce qu'ils ne nient pas tous... Enfin, tous ne nient pas les morts. C'est ça qui est compliqué.
Absolument, absolument. Bah, il faut savoir que le terme de génocide est un terme essentiellement juridique. Donc, historiquement parlant, on peut parler de... Encore une fois, il y a une certaine gamme. Vous pouvez parler de crimes contre l'humanité, vous pouvez parler de massacres en masse, vous pouvez parler de plein de choses. Et par conséquent, la Turquie a opté, la Turquie officielle, a opté pour une reconnaissance un peu graduelle de certains abus, certains excès, etc. Mais au niveau populaire, aujourd'hui, le Turc moyen n'est même pas conscient que les Arméniens qui ont été victimes de ce génocide en 1915 étaient des sujets ottomans. Pour eux, c'est des étrangers. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est cette occultation, ce déni qui est en fait imbriqué dans le système de l'éducation, qui fait qu'aujourd'hui les gens ont du mal à imaginer que ce fut autrement. Donc c'est quelque chose qui s'explique assez facilement. Mais encore une fois, bon, c'est un tabou qui est très populaire. D'ailleurs, ce n'est pas une grande question en Turquie. Elle revient tous les 24 avril quand on s'inquiète sur le terme que va utiliser le président des États-Unis pour décrire le génocide. Donc ça n'est pas une des questions brûlantes de... Vous n'avez personne qui est incarcéré sur ses propos concernant le...
Tant ça fait consensus?
Ben, ça fait consensus, oui, ça fait consensus.
Oui, mais le négationnisme est quasi
général. Il est consensuel. On ne peut pas parler de négationnisme innocent, mais je suis tenté de le dire, c'est-à-dire que c'est un négationnisme presque inconscient parce que l'alternative n'a pas été explorée. Et encore une fois, c'est à mettre en rapport avec le fait que la Turquie n'a jamais eu à rendre des comptes et qu'elle ne s'est jamais repenchée sur son propre passé.
Mais j'utiliserais quasiment un autre néologisme. Je parlerai de négationnisme monstrueux et surtout inutile. C'est-à-dire que si aujourd'hui la Turquie reconnaissait l'évidence, autrement dit le génocide arménien, qui perdrait-elle ?
Ça dépend. Je ne vois pas d'hommes politiques, ce sont des hommes en général, mais de politiciens capables de gérer un tel discours. Non, parce qu'ils vont, le populisme, ce n'est pas le monopole d'Erdogan. Tout le monde doit pactiser avec une sorte de consensus nationaliste qui définit l'opinion publique en Turquie. Et par conséquent, personne ne va s'engager dans ce genre de discours.
L'autre question, Céline Lussatto, c'est la question kurde avec, donc, comme on le sait, une répression extrêmement sanglante des Kurdes de la part du pouvoir turc. Et aujourd'hui, vous dites finalement que ce clivage tendrait à s'effacer. Alors, je mets toutes les précautions nécessaires. Tant aujourd'hui, l'opposition, ou le soutien d'ailleurs à Erdogan, prime sur d'autres appartenances, d'autres combats politiques.
En fait, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que la moitié des Kurdes votent pour Erdogan. On a l'impression d'avoir une entité monolithique quand on parle des Kurdes, c'est totalement faux.
Là, il faut que vous nous l'expliquiez, parce qu'effectivement, on se dit que lorsqu'on est Kurde, on est nécessairement hostile à Erdogan. Qu'est-ce qui peut inciter un Kurde à voter Erdogan ?
Déjà, une importante partie des Kurdes sont conservateurs, religieux, donc se tournent vers celui qui représente le mieux cette tendance, c'est-à-dire Recep Tayyip Erdogan. Il faut analyser les résultats des précédentes élections et vous verrez que dans l'Est, à Van par exemple, le score de Tayyip Erdogan est relativement élevé. C'est lié aussi évidemment à au pas exactement 8-9 premières années de pouvoir d'Erdogan, où en fait il a œuvré à la réconciliation, au dialogue, vraiment les premières années, les années où Erdogan était pro-européen, où il était question que la Turquie entre dans l'Europe, etc. Il y a eu vraiment un espoir des Kurdes dans cet homme, dans le fait que voilà, ça y est, enfin les Kurdes auraient une existence.
Oui, j'allais insister sur ce point. Jusqu'en 2008, Erdogan et celui et son parti sont ceux qui se sont le plus rapprochés d'une reconnaissance de l'identité kurde dans le contexte turc. Et ça, ça compte énormément. Donc, ça laisse des traces.
Mais lorsque j'ouvre le dossier de l'Obs, que l'Obs consacre cette semaine à la menace Erdogan, c'est le titre en une, Céline Lussato, je vois la photo d'un char à Afrin.
Oui, bien sûr, parce que aujourd'hui
pour une répression donc oui. Sanglante des Kurdes.
Oui, oui, bien sûr. La répression est extrêmement forte dans le sud-est de la Turquie à majorité kurde. Néanmoins, les conséquences sur le vote n'est pas encore tangible.
Ce qui veut dire aussi, Edem Eldem, qu'il n'y a pas d'homogénéité chez les Kurdes.
Non. Absolument pas.
Mais ça, c'est important de le dire parce que.
Mais absolument. Et c'est tant mieux parce que on devrait quand même dépasser la logique des nations inventées au 19e et au 20e siècle. Donc c'est un bon signe, mais ça demande quand même, encore une fois, une culture politique un peu plus sophistiquée que celle un peu noire et blanc qui domine la Turquie. Et puis ce qui me fascine, et je crois que c'est encore une clé de lecture pour cette continuité, c'est la sacralisation de l'État. Et la sacralisation de l'État, c'est-à-dire que l'État, la survie de l'État, et ça c'est quelque chose que l'on entend sans cesse, justifie la pose limite, la réduction des droits et des libertés individuelles. Et ça c'est très important parce que ça définit un peu la politique turque depuis, encore une fois, Abdülhamid. Et c'est ça qui...
Donc ce sultan qui a régné sur la Turquie jusqu'en 1909.
Exactement, sultan, et c'est cette... On se plaint de l'état d'urgence, de l'état d'exception aujourd'hui. La Turquie a grandi sous un état d'urgence.
L'évolution à laquelle on va peut-être assister dans cette division des Kurdes entre pro et anti-Erdogan jusqu'à présent, c'est que certains pro-Erdogan parmi les Kurdes vont peut-être, en raison des violences que la région subit depuis 2015 maintenant, vont peut-être se tourner vers un autre parti, Saadet Parti, qui est un autre parti religieux de la coalition d'opposition.
Céline Lussato, il y a un point très important sur lequel là aussi ces élections vont influer. On va voir les conséquences de cette situation sur les élections. C'est la situation économique turque qui est particulièrement mauvaise. Erdogan a fait une politique de grands travaux. Il y a aujourd'hui une inflation importante. La devise s'effrite. Alors,
c'est le point qui revient le plus dans les conversations de café, qui sont quand même un indicateur de ce qui se passe dans le pays. Les gens ne parlent que du taux de change. Aujourd'hui, la livre turque s'échange à « Ah, tu as vu, ils ont encore perdu ». Les gens craignent une crise économique, justifient d'ailleurs le fait que ces élections ont été avancées d'un an et demi par la crainte d'une crise économique.
Les gens, plus grande encore.
Plus grande encore, absolument. La bulle qui était effectivement fondée sur ces grands travaux, etc., risque d'éclater. C'est une situation qui inquiète pas seulement les gens de la rue, mais les économistes, beaucoup.
Et là aussi, je me tourne vers vous, Edem Eldem, en tant qu'historien. Il y a peu de temps, on se souvient que la Turquie était présentée comme un miracle et qu'il y avait là la possibilité d'imaginer un véritable Eldorado, un pays qui rattraperait bien vite les pays européens du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est la politique qui, en gros, a coulé l'économie, et ce qui arrive très souvent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre politique vous force à amplifier les dépenses de l'État, etc., vous vous mettez dans une une situation qui est potentiellement une situation de crise. D'ailleurs, ce qui est intéressant historiquement aussi, c'est que les changements politiques ont généralement été influencés par des crises économiques. Même si le discours reste très politique, c'est vrai que l'électorat est très sensible à ce qui est l'évidence même du quotidien, c'est les prix, le niveau des prix, l'inflation, le chômage et le taux de change. Le taux de change étant un indicateur du niveau de vie, puisque le taux de change ne concerne pas directement la grande majorité des individus, mais c'est quand même quelque chose qui positionne le pays dans une situation économique internationale. Et ça, bon.
C'est un cercle vicieux parce que, comme vous le savez, une crise de confiance entraîne une crise économique. Moins les gens consomment, plus l'économie en pâtit, etc. La crise de confiance aujourd'hui est très très forte.
Alors par rapport à cette situation, que proposent les candidats? Parce que après tout, on peut choisir aussi parfois des gouvernants en fonction de leur politique économique. Ça existe, Céline Lussato.
Bon, là, effectivement, on est sur quelque chose de plus compliqué parce qu'on aura du mal à définir ce que propose Mohamed Inje, le leader du CHP, par exemple.
Il est censé être à gauche.
Oui, enfin, à gauche en Turquie, ça veut dire la gauche de la droite, quoi. Je veux dire, c'est pratiquement à droite du centre, quoi.
Mais c'est pas une spécificité.
Non, mais c'est vrai. Je veux dire, l'éventail politique en Turquie est extrêmement conservateur. Donc même le CHP il est conservateur d'une certaine politique. Le problème justement de l'opposition, ils se sont tellement définis et ça se comprend dans l'anti-erdoganisme que leur discours se limite en gros à cela et que par conséquent il y a une sorte de mimétisme à l'inverse d'Erdogan. Donc on promet de la démocratie, on promet de démolir ou de réutiliser son palais présidentiel, etc. Ce qui ne nous informe pas vraiment sur l'avenir économique du pays. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment un projet. Donc ils sont portés par Erdogan. Et ça, c'est un problème de fond. D'ailleurs, quand vous voyez cette coalition des forces de l'opposition, vous avez un parti conservateur islamiste ou musulman, vous avez un parti républicain du peuple qui se revendique de gauche, et vous avez un parti nationaliste qui se revendique des trois croissants du MHP, etc. Un parti de scission du MHP. Donc vraiment, ce sont des partis qui n'ont rien pour s'entendre, si ce n'est leur cause commune contre Erdogan. Alors ça, bien sûr, ça affaiblit la possibilité d'y voir un discours concret quant à l'avenir. Mais c'est peut-être une phase par laquelle il faut passer pour corriger, parce que je persiste à croire, en tant qu'historien, que le problème, c'est cette continuité de l'autoritarisme.
Il y a également une ambiguïté et un jeu qui est un jeu assez pervers avec la Turquie, puisqu'il faut rappeler, Céline Lussato, qu'Erdogan nous fait peur et qu'Erdogan nous rend service. On lui a délégué la question des migrants et une partie de la question des réfugiés syriens. C'est aujourd'hui une donnée extrêmement importante et il se sert très largement de cela pour peser sur les Occidentaux.
Absolument, on peut voir Erdogan la main sur le robinet à migrants avec cette menace d'ouvrir à nouveau les passages. À partir du moment où l'accord entre l'Union européenne et la Turquie a été conclu, la Grèce, principal point d'arrivée des migrants syriens, du jour au lendemain a vu le nombre de migrants chuter énormément. Et donc voilà, il fait planer cette menace.
Il faut rappeler quand même que l'Union européenne paye pour cela.
Absolument.
Elle paye beaucoup, elle paye 6 milliards d'euros.
Oui, c'est dire si la peur des migrants est importante en Europe et voilà, et le coût est bien plus important que ces milliards puisque dans la facture, il y a aussi le silence de nos gouvernants sur
Avec quelles conséquences sur la situation turque, Céline Lussateau ?
Alors la conséquence, elle est très forte, puisque les Syriens ne pouvant pas fuir la Turquie, aujourd'hui, la Turquie doit faire avec des millions de Syriens sur son territoire. Donc les 6 milliards servent évidemment aussi à faire en sorte que ces migrants puissent vivre à peu près correctement en Turquie.
Edem. Je suis probablement cléomane moi-même, parce que je vais de nouveau parler de continuité. Il y a quand même une similitude entre cette situation et la Turquie bastion contre le communisme dans les années 50-60, la Turquie bastion contre l'islamisme dans les années 80. La Turquie a toujours profité, et c'est son droit le plus légitime d'un certain point de vue, de l'utilité de la manière dont elle se définissait comme étant utile aux intérêts de l'Europe. Et il faut se souvenir que quand même l'Europe n'était pas tout à fait mécontente d'avoir un système qui était géré par des généraux, etc. Ça ne les gênait pas. On n'entendait pas de discours démocratique dans les années 70-80, alors que le système était quand même sous surveillance de l'armée. Donc là aussi, continuité, même si le contexte est différent, c'est encore une fois la Turquie qui joue sa carte stratégique ou tactique, et qui essaye de se tailler une place dans l'échiquier international.
La question de l'État islamique, la question du terrorisme, est-ce qu'elle est aujourd'hui présente, Eden Meldem, dans
le discours? Oui, c'est-à-dire que de la même manière que l'opposition traite Erdogan de dictateur, Erdogan traite tous les autres de terroristes. Donc c'est un peu... C'est une rhétorique, une démagogie qui est très présente, puisque dans terroriste, il y a tout ce qu'on veut, c'est un terme fourre-tout, qui définit l'ennemi de la nation, l'ennemi de l'État. Encore une fois, la sacralisation de l'État. Donc, comme ça, vous définissez l'autre et vous instaurez un clivage politique entre vous qui représentez, encore une fois, le problème étant que la frontière entre le gouvernement et l'État n'est pas claire. Donc, le gouvernement devient l'État et parle au nom de l'État et, par conséquent, définit tout ce qui est contre le gouvernement, contre le parti politique, comme étant un traître à la nation, un terroriste, etc. Donc, contre l'État. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous trouvez dans le kémalisme, que vous trouvez dans la tutelle militaire ou alors chez Abdulhamid.
Et une rhétorique qui envoie aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes en prison, puisque c'est sur ce chef d'accusation de complicité de terrorisme que la plupart des personnes sont jugées aujourd'hui.
Je vous ai invité, Edem Elden, en vous promettant que vous ne feriez pas de pronostic électoral, que je ne vous demanderai pas de pourcentage au premier ou au second tour pour les législatives. Malgré tout, les différents scénarios, je ne vais pas mentir à la fin, je vais rester fidèle à ma promesse,
mais je vais quand même
demander un mot de conclusion pour savoir ce qui pourrait se passer maintenant. La plupart des observateurs s'accordent pour dire qu'il y aura un second tour, ce qui est déjà une chose, que évidemment on ne sait pas très bien dans quelle mesure ces élections libres seront libres, si vous voyez ce que je veux dire.
Tout à fait. Un scénario possible, c'est que Erdogan remporte la présidence en deux temps, mais qu'il perde la majorité au Parlement. C'est un scénario comme un autre, je ne sais pas. Les sondages, les enquêtes ne sont pas très clairs. Pas du fait d'une censure, etc. C'est que les gens ne s'expriment pas. Alors là, il y a une sorte de crainte qui est très, très présente dans à un niveau populaire. Donc franchement, se prononcer sur le futur, encore une fois, je les aime morts et enterrés, on en parlera plus tard.
Et si on aime, et on est beaucoup à aimer les tyrans morts et enterrés, et à aimer l'histoire aussi, l'Empire Ottoman et la Turquie face à l'Occident, c'est le livre que vous avez publié chez Fayard. Merci Céline Lussateau, on vous retrouve dans le dossier de l'Obs, on est partenaire de l'Obs qui publie un dossier extrêmement complet sur la menace Erdogan, migrants, islamisme, droits de l'homme, pourquoi il nous fait peur.